Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Salut, c'est Izmo pour RDY, je suis avec Black Beanie Dub, duo de dub qui vient se produire au Wireless Dub Festival. Salut les gars, vous pouvez vous présenter ?
Salut l'équipe, alors moi c'est Mathieu de Black Beanie et on est là, on vient d'arriver tout juste fraîchement dans la chaleur de la Drôme et je passe le micro à mon compère.
Et salut, moi c'est Guillaume et on est très content d'être là, donc merci pour l'invitation. Et on espère que ça va super bien se passer, mais il n'y a pas de raison.
Ah c'est sûr. Ah mais c'est sûr que ça va super bien se passer. Est-ce qu'on peut commencer par un petit historique pour vous présenter le projet Black Beanie Dub, quand, où et comment quoi ?
Pourquoi pas ? Eh ben écoute, à la base Mathieu et moi on est quand même des copains depuis qu'on a 13 ans. Aujourd'hui on en a 30, on vient de les fêter là, on a un jour d'écart. Bon ça c'est pour la petite anecdote. Merci, je suis né le 31 juillet, il est né le 1er août.
30 ans.
Et du coup, ça fait 17 ans d'amitié, là, hein, déjà. Ouais. Ça ne nous rajeunit pas, cette histoire. Mais bref, dans l'idée, je commence la musique grâce à Mathieu. Lui, il avait un peu d'avance grâce à son papa et même sa maman. Bref, le temps faisant, on lance tous les deux un projet dub, chacun de notre côté. Moi, sous Poulipo Recordings et toi, sous South Dub, qui est encore trouvable hein, sur Internet. Et puis, on finit par mutualiser un petit peu nos forces, que ce soit en termes de matériel ou en termes de savoir-faire. Et un jour, Mathieu nous dégote une belle opportunité puisqu'il contacte Paul ODG. Il leur présente ce qu'on fait et ils acceptent de nous donner un créneau pour faire une release d'album. Donc en fait, on a notre petite discographie chacun de notre côté avec des petits succès d'estime, disons, sur SoundCloud, quoi, rien de fou. Et là, on sait qu'on a un an, compte à rebours lancé pour faire un album. On n'a jamais fait ça de notre vie, on a fait des petits singles sans enjeu. Des petits EP, enfin plutôt toi, moi j'avais plutôt fait des trucs au compte-gouttes, mais bon, dans l'idée, voilà. En plus, surtout qu'à la base, on est plutôt des rockers, des métalleux, donc on était plutôt guitare, lui il était batterie, guitare aussi. Donc il y a eu un virage qui a été opéré. Et let's go quoi, du coup voilà, un an, ça a donné notre album homonyme, qui est aussi le premier, donc l'album Black Beanie Dub, qui est sorti en 2017 ou 2018.
2016, les prémices dans l'ombre, on se rassemble. 2017, on sort ça au grand public. Donc du coup, on a dû contacter des chanteurs, des artistes à droite à gauche pour pouvoir faire un truc où on voulait vraiment produire avec les gens. Parce que voilà, comme il te dit, on était deux, on savait pas où on allait. Mais en tout cas, ce qu'on voulait, c'était un truc propre. Et on s'est dit, on va quand même faire appel à des gens qui sont là depuis longtemps pour nous aider et rendre un truc public cool. Donc ça a plu, on est content, voilà.
Tu dis, vous avez bossé avec des gens comme qui ? Vous avez des noms à nous dévoiler ?
Ouais, par exemple, là, sur le premier projet, quand on a commencé pour ODG, on a collaboré avec Troy Berkeley, avec George Palmer, avec Ashkabad, avec d'autres gens, Morgan Ibi, Sam Arenuka, j'en oublie. Et puis après, on a gardé cette vibe, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on a refait un projet par la suite, que ce soit single ou EP, on n'a pas refait d'album, c'était toujours dans la vibe de avec d'autres gens et le plus possible travailler en équipe et faire des collaborations.
Moi, je me permets de rajouter un petit truc, vu qu'on est dans l'historique. On a pas mal chanté aussi sur nos premières productions, notamment cet album. C'est un truc qu'on n'a pas perdu, même si on l'a un petit peu effacé sur les dernières sorties. Et concrètement, ouais, il y a un petit virage qui s'est opéré il y a quoi, je dirais... 4 ans, 5 ans peut-être, ouais. Où on s'est dit qu'on voulait plus être au service de cette culture plutôt que de nous mettre en avant en tant qu'artistes. Bon, c'est un choix qui change pas grand-chose pour l'auditeur, mais pour nous, c'est important de le dire. Donc voilà, on s'est fait plus le porte-voix en grandissant et en maturant un petit peu notre volonté. Puis surtout, en fait, il y avait aussi une histoire de contrainte dans la mesure où, quand tu commences, t'es personne, il n'y a pas grand monde qui... faut mettre la main à la pâte, il faut bien travailler. Pour savoir traiter une voix, il faut avoir des voix de qualité. Malheureusement, fort heureusement, il y a eu des gens qui nous ont aidés, mais malheureusement, pas assez pour faire un album 15-20 titres, tu vois. Donc on l'a fait avec beaucoup de plaisir. C'est un truc qu'on lâchera jamais vraiment, je pense. Mais voilà.
Hey, tu soulignes l'importance de travailler avec d'autres artistes. Ça semble un peu déterminant pour vous. C'est qui l'artiste avec qui vous rêveriez de collaborer et que pour l'instant c'est pas encore là, mais peut-être un jour?
Moi j'en ai un que vraiment j'adore sa voix, et en plus je sais qu'il a déjà fait des dubplates et tout. C'est Luciano, qui est très 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 fort. Mais bon voilà, c'est un big boy. Ouais, le Jamaïcain. La voix de fou. Mais il a déjà fait, le pire c'est qu'il a déjà fait des dubplates pour des sound systems et tout. Donc je sais qu'il est dans ce truc là. Il est pas renfermé en mode tu vois. Après voilà, c'est des fois c'est les contacts, des fois c'est des tarifs qui sont trop. Voilà, ça peut dépendre de plein de choses. Et honnêtement, pour l'instant, on n'a jamais posé le truc sur la table. Mais moi, dans ma tête, je me dis, ah ouais, un jour, putain, ça serait trop cool. Black Beanie, Luciano, incroyable. Je sais pas si toi t'en as un dans le.
Honnêtement, moi, je suis plutôt du genre à pas forcer les choses. Mais oui, bah, si on parle de producteurs, on adore ouvertement Rico, on adore. J'adore Iron Dubs, je pense que toi aussi. Ah, c'est vrai que de ce côté-là, ils ont un sacré talent, du coup, ça serait bien de s'en rapprocher gentiment, quoi.
Et parlons un peu matos. Comment est-ce que vous bossez? Vous avez un home studio? Vous faites vous-même les instrus? Guitare, t'as évoqué la guitare, donc c'est toi qui fais les grattes, les batteries, comment ça se passe?
Alors le studio, ça a énormément évolué. Par exemple, pour le premier album, on avait vraiment un setup minimal, quoi. C'est-à-dire qu'on avait une carte son, je ne saurais même pas dire ce qu'on avait. On avait un système hi-fi, donc on avait une chaîne hi-fi, quoi, en fait. Avec deux enceintes hi-fi, donc même pas d'enceinte de monito. Bon, quand on voit les scores que ça fait, que ça a fait, parce que bon, ça a quand même mis du temps, on est grateful à fond, quoi. Et on a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Et après, le temps faisant, Mathieu, il en a fait son métier. Moi, j'ai eu des études un peu plus longues, mais derrière, j'ai fait une licence pro de son. Et j'ai voulu faire du studio, quoi. Aujourd'hui, c'est ça qui me fait vivre. Donc le studio, il a pas mal évolué, quoi. J'ai quelques... Ouais, maintenant, il y a tout chez moi. Du coup, il y a quelques pièces de matériel qui se sont retrouvées chez moi, qui étaient à Mathieu, notamment une paire de DBX 160A. Bon, c'est qu'un détail, mais... il y a beaucoup de choses à dire, hein. Y a beaucoup de choses, mais bon voilà, si on dit un peu le gros du truc, je pourrais dire qu'aujourd'hui les masters de Black Beanie passent dans un Dangerous Music 2 bus plus, donc ça c'est quand même cool. Les convertos, c'est du Apollo, donc voilà, on rentre en 16 voix dans le 2 bus plus, et ensuite voilà, il y a des petits compresseurs par-ci par-là, il y a différentes pièces de hardware, quoi.
Et on peut rajouter aussi que le côté, du coup, comme disait Guillaume, lui, il a le côté studio. C'est-à-dire que lui, il s'est professionnalisé là-dedans. Moi, je suis ingé en live. Donc, on a vraiment toutes les deux casquettes. Et ça tombe bien, parce que c'est aussi plutôt moi qui ai porté le côté sound system du projet Black Beanie Dub au début, avec Guillaume, qui lui a mis la pression pour qu'on fabrique une sono vite, vite. Parce que moi, j'aimais les soirées, j'aimais le live et pouvoir jouer. Sur quelque chose que tu as construit, c'est vraiment quand même quelque chose de bien. Donc, c'est ta musique, sur le matos que tu as fait et tout, donc c'est cool. Donc pareil, la sono, on l'a fait assez tôt, la sono quand même, mais elle a évolué. On a commencé par acheter une sono qui était déjà faite, on a remplacé les subs, on a fait des scoops, comme 90% des gens qui font du dub, mais bon, ça marche bien. On a fait des scoops, on a récemment, ça fait 2-3 ans qu'on a acheté la section mid de Blackboard Jungle. Donc voilà, on a une bonne sono. Bon, c'est pas une grande sono, c'est un 4 scoop comme ce soir là. Mais ça nous suffit, nous on se régale quand on fait des soirées avec en local. On sait qu'on fera pas des grosses jauges, mais tant qu'on s'amuse avec ça, c'est cool. Et puis si on est invité sur des setups qui sont 3 ou 4 fois plus gros, tant mieux. Tant mieux.
Je me permets de reprendre le micro pour en revenir à cette histoire de comment la musique de Black Beanie Dub est fabriquée. Oui. C'est nous qui faisons tout, donc les guitares globalement c'est nous, les basses parfois c'est des prises, parfois c'est du synthétique, les drums très généralement c'est du synthétique. Pour les percussions, on a eu la chance de bosser avec un gars que tu connais, je pense, Stéphane Lopez. Steph K. Lopez.
Non, je connais Steph Calvin.
Ah, peut-être pas, non, je pense
Steph
pas.
Lopez, c'est le régisseur de...
de Massilia notamment, Kanja Rock, tout ça, c'est toute l'équipe du Studio K, quoi.
Ouais, ça fait
peut-être longtemps que tu les as pas vus, mais tu dois le connaître. Mais bref, c'est un monsieur qui nous a beaucoup aidés et qui a été adorable avec nous. Donc on le remercie pour ça. Les singers, voilà, on fait forcément appel à des gens de l'extérieur quand c'est pas nous qui opérons là-dessus. Et voilà, quoi, c'est de l'autoprod depuis toujours dans l'idée. On a toujours fait nos régimes. Ça nous est arrivé quand même de collaborer notamment avec Ashkabat sur un régime où on peut dire littéralement que c'est presque leur régime, sur Impolite Kid par exemple. Ils ont beaucoup travaillé pour que ça sonne aussi bien. Ouais, merci à eux. Et voilà, mixage, mastering, tout en autoprod depuis toujours.
Et vos rapports avec la scène locale ? Parce que vous me parlez d'artistes qui viennent un peu de partout dans l'Hexagone, mais vous avez un peu des rapports avec les artistes locaux ? Massilia Hi-Fi, est-ce que vous les connaissez ? Je sais pas, il y a les Baltimore aussi, je crois, non, à Marseille.
Tu vois, ce qui est drôle, c'est que, alors, déjà, il y a vraiment, il y a beaucoup de sound system et tout dans le sud, mais il y a deux écoles. Déjà, il y a l'école full roots reggae, plutôt vers Aix, qui eux sont vraiment des partisans de jouer la musique dans la tradition jamaïcaine, on va dire, tu vois, c'est-à-dire vinyle, full analo. Ils sont pas forcément dans la prod, même s'ils en font aussi un peu. Et t'as le côté un peu nous, Massilia, qui, j'en ai pas d'autres en tête, mais Mescal, etc., qui sont plus dans la prod. On va se rapprocher plus du dub UK, dub OBF, voilà, French Touch. On va un petit peu outrepasser cette tradition jamaïcaine, mais en gardant l'esprit. Par contre, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de mélange là-dedans. C'est vrai qu'on a un peu ce regret-là, tu vois. C'est-à-dire que nous, on aurait aimé plus de familiarité, d'entraide. Il n'y en a pas eu. Est-ce que c'est un choix ? Est-ce que c'est la vie qui a fait que ? Je ne sais pas. Voilà. Maintenant, on a d'autres crews qui ne sont pas forcément de Marseille, avec qui on a des atomes crochus, c'est-à-dire HFD par exemple, avec Angie Man, tout le crew, qui sont de la Drôme en plus, je crois. Gab, il est un peu plus bas, Montélimar et tout, mais... Encore ? Voilà, on a déjà collaboré par exemple avec Gab, Angie Man de HFD. Là, prochain morceau qui sort, c'est un régime que j'ai fait avec Charles, qui a fait la première sono d'HFD, enfin bref, il y a plein d'ententes ici. Mais c'est vrai que dans notre région,
Musical Riot,
ça fait partie plutôt de la scène d'Aix, tu vois, donc c'est vrai qu'on s'est pas beaucoup vu et tout ça.
Ils sont pas mal dans le UK aussi.
Ils y sont, mais c'est vrai que nous, de base, ils nous ont pas plus approchés que ça, ouais. Après, voilà. Hein.
On a eu quand même... Il faut le dire, du support de Zinzine, d'autres radios marseillaises, je ne vais pas dire de bêtises, Grenouille, peut-être Galère aussi, à l'époque. Il y a eu Rage à Nîmes, ouais, avec le colonel, comme on dit, je crois. Non. Pour passer le big up quand même à des crews locaux, gros big up aux gars d'OSS, avec Thomas, notamment Pierre. Gros big up au gars de Natural Bashi. Et on a eu quand même des collaborations. Ouais, Garla Dub à fond, Garla Dub. Big up Tena à fond. Et j'oublie Sama aussi, Renuka, et puis tout son crew quand même, qui organisait des soirées à l'électrode. C'était il y a déjà des années, quoi. Mais bon, c'est quand même les premières personnes qui nous ont tendu la main. On peut pas non plus dire qu'on n'a pas eu de soutien dans le coin, mais c'est vrai que c'est pas une grande famille. Nous, on est arrivé un petit peu. Assez innocent finalement, tu vois, dans ce milieu-là. Et bon, c'est comme dans le reste du monde, il y a des affinités, il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas.
We are song warriors. We music and ambassadors. hear people too and so listen to get them. Don't express opinions, listen not to condemn. Music to federate around common ideas. Ooh yeah. Music is here to help doing better choices. We all saw where we are.
Black Beanie Dub, c'est quoi ce nom en fait? D'où est-ce que ça vous est venu cette histoire?
Non mais en vrai il n'y a rien, hein. C'est juste qu'on est, souvent avec des casquettes, des bonnets, souvent noirs, parce qu'on s'habille en noir, comme tu dis on vient du métal, donc on a eu cette culture un peu du black toujours un peu sur nous, et voilà, on mettait souvent des bonnets, des trucs noirs. Il y avait aussi, je me souviens à l'époque, il y avait aussi une volonté de faire un jeu de mots avec Beanie, un haricot. Parce que on écoutait pas mal Mungoz, etc. Et du coup, en vrai, ça veut rien dire, ça nous fait rire. Je trouve ça passait bien à l'oreille. Black Beanie Dub, Black Beanie Sound, ça passait bien, voilà.
Et avant de venir ici, vous connaissiez le Wireless Sound System?
On connaissait pas. On connaissait qui? Sarou?
Bah écoute, moi j'ai vu passer Sarou déjà sur.
Okay. Ok, alors moi non, mais après voilà, c'est des crews de la Drôme, il y en a tellement des sound systems que des fois peut-être on les a entendus passer et tout, mais on sait plus. Et je trouve justement le fait de venir jouer, etc., d'échanger autour de même passion, c'est là où tu crées vraiment les affinités, et là forcément on les oubliera pas, et c'est trop, d'ailleurs on est trop content qu'ils nous invitent. Et c'est super en plus l'endroit, trop beau, petite ferme, des petits bidons, des petits bancs. Le sound tout propre, on disait le sound, il est tout neuf, il a 5 ans. Je dis ah ben nous, il a 5 ans, il a pas la même tête. Hein. Dès qu'on le sort, on l'abîme. C'est vrai que c'est très très propre ce qu'ils ont fait.
Vous aviez entendu parler du Psycho By Dub Festival qui avait lieu donc avant, en fait, c'est un peu les parents de l'équipe de Wireless qui s'occupaient de ça.
On n'a jamais eu l'occasion de venir ou d'écouter ce qu'ils proposaient, mais je crois que c'était un mélange, il y avait un mélange plutôt basse musique, électro et dub aussi, c'est ça?
C'était essentiellement dub.
C'était essentiellement dub?
Ouais, ok. Essentiellement dub.
Il y avait deux sonos, c'est ça à l'époque?
Dubmatics,
okay.
Junior Cody.
D'accord. Ouais. Mais. Ouais. Incroyable. Ouais. Mais il y avait.
Avec Loreman.
Ah ouais, incroyable. Et il y avait. Il y avait deux sonos, il m'a dit Zept, c'est ça?
Ouais.
Il
y avait deux scènes.
Il y avait deux scènes, d'accord.
Il y avait une scène plutôt dub et une scène qui était un peu plus électro.
Voilà, c'est ça, c'est ce qui m'a semblé, voilà, ok, d'accord, ok.
Et qu'est-ce qui me vient? Vous avez une petite anecdote qui vous fait sourire quand vous y repensez ou alors une galère, ou peut-être c'est pas intéressant de parler de galère, mais.
J'en ai peut-être une. Bon, c'était un petit peu à nos débuts avec la sono. On a vu qu'il y avait une petite tradition qui se faisait. On a compris qu'elle n'était pas super bien vue, mais on a participé quand même. Pendant le Zion Garden, qui se passait à côté du Garance à l'époque, et après du Bagnol Reggae Fest, il y avait souvent des petites sonos qui venaient poser leur son sur le camping, tu sais. Et un jour, nous est venue l'idée de participer, nous aussi, à tout ça. Et donc, on a fait ça 2 ans. Et la première année où on l'a fait, c'est ça que je voulais raconter, c'est assez mignon. On est 2 gars, avec le camion de son papa, un groupe électrogène qu'on a gratté au voisin, et on lui file un billet pour que ça roule, quoi.
Acheté, même pas modifié, c'est-à-dire que...
Ouais, sono des Roots Workers.
C'était même pas les bons caissons basses, genre, il n'y avait rien de bon.
Il y avait des webins, il y avait des box close, non pardon, des basses réflexes en kick qu'on a gardé d'ailleurs parce que les basses réflexes en kick, c'est excellent. C'est notre avis, on le maintient. Box close en med et avec une seule Twitter box qu'on a dû en fabriquer un deuxième. Bon bref, c'était le setup minimal, on venait d'avoir notre sono et on s'est dit on va profiter 3 jours. Et donc tous les soirs on déballait la sono et comme on avait peur et qu'on connaissait pas trop et puis voilà, on était que deux pour opérer tout ça, et ben on remballait la sono le lendemain matin, rangeait le matin, voilà c'est ça, et on remettait tout et voilà, on a fait ça 3 jours de suite. On est rentré épuisé mais à un point, et puis surtout quand t'essayes de couper à 7-8 heures du matin et que t'as une armée de fadas qui te disent non, joue encore une demi-heure. Bah déjà tu prends du plaisir donc tu cèdes, mais quand ça fait 2 fois, 3 fois que tu cèdes, bah il vient de se passer 1h30, il fait bien jour. Donc c'était exténuant. Voilà un peu une petite anecdote et rien que j'y pensais c'est fatigant, mais c'était un souvenir de ouf.
Et ça vous arrive de vous produire sur des gros événements comme le Dubcamp ou des choses comme ça?
On aimerait bien. Franchement ça c'est un des regrets qu'on a. Et un petit peu aussi je pense, il y a eu... En fait, on a fait une pause pendant le Covid, Black Bini, parce qu'on avait besoin de faire une pause. On en a un peu empathie parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru qu'on a arrêté et tout, alors qu'on n'a pas fait de communiqué ou quoi, juste on a fait une pause un peu plus longue à ce moment-là. Ouais, mais bon, il y a plein d'artistes qui font des pauses longues, c'est pas pour ça qu'ils arrêtent. Bref, et je pense que si on continue là dans la lancée 2024-2025, on finira par jouer dans des événements comme ça. Mais je pense le timing, on est arrivé pile pour y jouer, on a arrêté, tu vois. Et on s'est arrêté pile au moment où il fallait pas, en fait. Et je pense que là, en faisant notre musique, en s'amusant comme on fait là, ça viendra. Mais oui, on aimerait, bien sûr, on aimerait. Là, Trematera, on joue en Espagne, là, Galice. C'est ça, c'est la région, Galice. Je ne connais pas la ville, mais en tout cas, on a été invité par le festival et c'est un gros festival. On a vu leur compte Insta et tout, on ne connaissait pas. Mais on a vu les artistes qui faisaient venir, les gemmes que ça faisait et tout. On a dit, ah oui, d'accord, c'est un énorme truc. Du coup, on va peut-être jouer au Dubcamp espagnol, on ne sait pas. Mais en tout cas, on est content d'y jouer. Et
espagnol.
Un peu. Moi, lui, il parle mieux que moi. Et on verra peut-être notre gars Rambla, peut-être là-bas, je pense qu'il se... Ouais, ouais, DJ Rambla. Bah, c'est quelqu'un qui est devenu assez proche de nous. Hein. Il nous a toujours suivis et il a toujours demandé des dubplates, des machins. Donc, très très fort, très très fort. Ouais. Peut-être que ce soir, j'aurai une dubplate de Rambla pour faire la big up. On en a quelques-unes.
Vous en vivez de ça? Non, Black Beanie Dub... Pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour en vivre, peut-être.
Est-ce que ça fait vraiment partie de notre volonté aussi? Ça, je sais pas vraiment. Il faut être honnête. Moi, je suis déjà très content de vivre de mon activité de studio. Bon, je roule pas sur l'or, mais j'ai de quoi vivre. Mathieu, il vit de son activité d'ingénieur, régisseur aussi. Donc, on vit de ce qu'on aime, d'une certaine manière. Après, est-ce qu'on veut vivre de Black Beanie? Je sais pas si on veut être des starlettes, quoi, dans l'idée, tu vois. Donc voilà.
Donc toi, Mathieu, tu fais des sonorisations de concerts, des régies d'événements. Toi, Guillaume, t'as l'occasion d'enregistrer des bandes des fois ou des artistes dans tout genre, quoi, en fait, c'est ça?
Je fais beaucoup d'enregistrements, je fais pas mal de compos. En ce moment, je développe pas mal l'aspect sound design. Donc vraiment, je taffe avec des vidéastes, avec des marques et compagnie. Donc ça, c'est hyper enrichissant pour moi.
Cool. Et donc votre discographie aujourd'hui, ça représente combien de singles, de EP?
Alors, non, alors on a le premier album, à peu près 9 titres. Il y a l'EP Raw qui est sorti. Alors non, il y a un petit EP avant qui est sorti qui s'appelle Spicy Regime, où c'est genre 4 fois le même régime avec 4 chanteurs différents. Un petit peu à la vibes justement Mongoz et tout. Ou Legal Shot aussi, faisait ça pas mal à un moment, tu sais, plusieurs... plusieurs fois le même régime avec des singers différentes. C'est ça. Après, on a fait Raw, l'EP en 2 sides. Donc, il y avait le Raw A-side et le Raw B-side. Là, on a vraiment compilé plein de singles dans un EP. Et on a fait les B-sides juste après sur l'EP B-side. Et là, bon, après, je te parle pas des remixes, des machins, des petits singles.
Il doit rester 30 exemplaires
Ouais.
C'est les deux singles qui sont sortis là tout récemment.
Non, non. En 2019, on a fait un vinyle avec Ramon Juda. Et on a fait 500 exemplaires, il en reste même pas 30 là. Et du coup, on les a ramenés ce soir et peut-être qu'ils partiront les derniers là ce soir. Et voilà. Et depuis qu'on a repris après cette pause que je te disais après le Covid, on s'est dit on va faire des singles, format vinyle mais digital pour l'instant. Peut-être qu'ils seront pressés à la demande, bon, on verra selon lesquels ont le mieux marché plus tard. Mais on a prévu de faire quatre sorties, là on en a déjà fait deux. Et c'est format vinyle, genre A-side, B-side, le même régime. Soit un singer, soit un instrumentaliste sur la A-side, soit deux singers différents sur la A et la B-side. Et là il y en a encore un qui arrive en septembre, un autre qui devrait arriver en janvier. Et après ça, on espère pouvoir peut-être reproposer un album. Voilà. Voilà. Mais du coup, c'est pour ça que je te disais, on revient, mais on n'a plus cette volonté de vraiment vouloir en vivre ou espérer quelque chose. Juste, on vient, on s'amuse, on fait notre sauce, ça plaît aux gens. Voilà, on se régale, ils se régalent, tout le monde est content.
Et je rajoute qu'on ne vit pas de Black Beanie, mais aujourd'hui, Black Beanie s'autofinance avec les soirées, avec les ventes de CD, les ventes des versions extended, par exemple, sur Bandcamp. Par exemple, quand on sort des sorties 4 cheats, comme Mathieu vient de dire, on sort des versions extended sur Bandcamp, donc c'est plutôt à destination des sound et des spécialistes, où il va y avoir quelques cuts un peu plus obscurs, quoi. Tu vois ? Donc là, c'est vraiment l'occasion aux gens d'avoir un truc un peu plus rare que le reste et en même temps de nous soutenir. Et tout ça, ça nous permet d'aller de l'avant sans que ça nous blesse trop financièrement, vois-tu ?
Je vois complètement. Ok, super. Et l'avenir, Dub Music, vous n'êtes pas intéressé par des expériences dans la bass music ou ce genre de crossover ? C'est pas d'actualité pour le moment.
En vrai, si tu veux tout savoir, nous deux, on fait de la musique, là, comme tu dis, depuis qu'on a 12 ans. Enfin, moi, vraiment, depuis que j'ai 10 ans, lui, peut-être 15, tu vois. Genre, on dit à 12, comme ça, tout le monde est content. Et on fait tout. Genre, moi, j'ai une famille de zikos, je fais du rock, je fais à côté, je fais un peu de rap. Genre, je m'amuse avec un autre pote, on fait de l'électro, de la house. Enfin, on s'amuse vraiment. Si on parle que de Black Beanie, non, moi, nous je trouve on a trouvé là le petit format qui entre guillemets respecte les codes principaux du reggae et du dub. Et en même temps on arrive à trouver notre patte en gardant une petite touche un petit peu plus dynamique, un truc un peu plus jeune. Bon, bien sûr que ça évoluera parce qu'un projet musical ça évolue toujours, mais je pense qu'on restera sur une vision tu vois, assez claire pour que le projet reste cohérent.
Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Mathieu. Il y a un truc aussi qui s'est passé à peu près au même moment où on s'est décidé de se reculer en tant qu'artiste et avoir plus la casquette producteur, c'est que on est arrivé un petit peu par la porte du dub via l'électro-dub, quoi. Et il y a toujours eu cette espèce de guéguerre dont personne parle vraiment, mais il y a les gardiens du temple versus les électro-dubbers, quoi. Donc il y a les blasphémateurs contre les gardiens du temple qui n'ont pas bougé depuis 50 ans. Bon, aucun des deux... à la vérité absolue et d'ailleurs c'est pour ça que par exemple quand on parle d'OBF et Iron Dubs on trouve que c'est des gars qui ont complètement réussi à allier les deux de ouf et c'est pas une fin en soi pour nous parce qu'on cherche pas à copier quelqu'un d'autre, on se formalise pas vraiment en fait, hein, on fait ce qui vient et voilà. Ouais, voilà, c'est vraiment une belle piste qui est amenée. Je pense que je sais même pas s'ils ont réfléchi à ça ou s'ils ont fait exprès, mais il y a quand même une forme de consensus qui fait que les mecs ils sont dans le vrai, qu'ils veuillent ou non, je trouve, hein, tu vois. Et voilà, sinon bass music, bah écoute, des fois on a fait des trucs un peu violents, des fois on a fait des trucs très rouchical, notamment récemment. Voilà, le but c'était vraiment de faire un virage pour montrer que bon, bah, laissez-nous du temps, parce qu'à la base on sort un album, on a 20 piges. Comme on a dit tout à l'heure, on a un setup qui est absolument hideux. Et il faut nous laisser le temps, quoi. Tu peux pas insulter des petits de 20 ans qui font tout seuls. Voilà, donc je pense qu'on en a peut-être un petit peu souffert aussi de ce truc-là. Et donc on s'est dit, bon, voilà, on sait faire tout ça. Maintenant, laissez-nous 5 minutes et on va vous montrer ce qu'on a vraiment envie de faire maintenant qu'on a toutes les cartes en main, quoi.
Et j'ai aussi envie de rajouter que si on a envie de faire un dub à 160 BPM, on le fera, genre. C'est pas parce que c'est mal vu ou quoi. Si on a envie de s'amuser, on s'amusera.
Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein. Franchement, c'est ça qui est beau, c'est que vous preniez plaisir à kiffer votre passion, votre musique. Et on trouve ça où ? On trouve ça sur Bandcamp, votre musique, c'est ça ?
Suivez-nous partout, sur Instagram surtout, on est actif. Bandcamp aussi, et toutes les plateformes classiques, Spotify, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Music, et j'en passe, mais voilà, on est partout. Black Beanie Dub, vous marquez ça n'importe où, normalement vous allez trouver au moins un lien.
On parlait un peu en off de notre vision sur les soirées dub aujourd'hui, et sur qu'est-ce que vient rechercher le public. Il vient chercher de la pression acoustique. Il vient chercher de l'amusement, et tout ça, en fait, souvent, c'est sous fond de drogue. Et c'est quoi ta vision là-dessus, en fait ?
En fait, bon, là, ce qu'on s'est demandé un petit peu en off, finalement, c'était est-ce qu'il y a véritablement un changement sur, allez, on va dire les 15 dernières années, quoi ? Le truc, c'est que ça peut être biaisé, parce que, comme je disais tout à l'heure avec Mathieu, on est arrivé un petit peu tout candide, nous, dans ce milieu-là. Moi, j'ai beaucoup idéalisé le rastafarisme et compagnie. Attention, je ne critique pas aujourd'hui, mais juste que je suis arrivé où je voyais que les bons côtés. Et puis surtout, c'était vraiment... Voilà, je regardais d'où ça venait, surtout, avant de constater ce que c'est devenu chez nous, quoi. Non pas que ce soit devenu quelque chose d'horrible, mais bon, forcément, ça a évolué, quoi. C'est arrivé en Angleterre, c'est arrivé en France, ça a fait de la route, il y a eu un tas d'acteurs, il s'est passé plein de choses. C'est pas facile à synthétiser en quelques phrases quand on parle de 60 ans d'histoire, mais bref. La question, c'était de se dire, voilà, moi je suis arrivé dans les sessions à 18 ans, aujourd'hui j'en ai 30, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou est-ce que c'est moi, mon regard qui s'est ouvert, quoi. Et c'est vrai que, bon, bah, aujourd'hui, les organisateurs, par exemple, ils cadrent beaucoup plus tout ce qui est notamment, voilà, on parlait de cette prise de drogue, c'est quelque chose qui est un peu moins tabou qu'avant, peut-être, j'en suis même pas sûr, mais... Comme je disais, aujourd'hui, contre les murs, dans les soirées, souvent, il y a des affiches de prévention. Il y a, comme dans les teufs, je ne suis jamais allé, mais je savais que ça existait avant. Je pense que c'est toujours pareil, mais des petits bouts de papier pour que tu puisses rouler ta paille, que ce soit propre, que ce soit jamais la même et compagnie. Bon, bref, c'est un truc, nous, avec Mathieu, qui nous dépasse complètement parce que ça ne nous a jamais intéressé outre mesure. Donc voilà, la question est posée. Est-ce que le public a changé ? Est-ce qu'il y a de la misguidance aujourd'hui dans les sessions ? Est-ce que le message intéresse ? Est-ce qu'en fait, il intéressait plus avant ? C'est des questions qu'on pose.
Mais c'est des bonnes questions. Tu parlais de 60 ans d'histoire musicale, à peu près. Tu parlais de message. A priori, le reggae, le dub, ce sont des musiques à message. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le message passe encore ? Et c'est quoi le message ?
Le message, c'est Rastafari, quoi. Concrètement, c'est
quoi Rastafari ?
Je pense que c'est un appel à l'humilité, à la simplicité. C'est aussi un appel religieux, d'une certaine manière. Donc après, ça, c'est propre à chacun. Et je pense pas que ce soit... En fait, c'est même pas « je pense pas ». C'est qu'à partir du moment où les sound systems se sont démocratisés en Angleterre, pour moi, le peuple noir anglais a ouvert... la culture sound system au monde entier. C'était plus quelque chose exclusivement noir, c'était plus quelque chose exclusivement pauvre, je pense. Bon, forcément, là, on synthétise énormément, donc peut-être que je dis des bêtises, mais je pense vraiment qu'il y a eu une ouverture sur le monde qui s'est faite à partir du moment où c'est devenu un vrai phénomène en Angleterre. Et d'ailleurs, la France en est la preuve dans la mesure où c'est une assez grosse niche, finalement. Je pense que la France, en Europe, on est quand même des gros porteurs du reggae et du dub. Donc bon, ça c'est la première réponse. C'est quoi, le message. Est-ce que le message est encore entendu ? En fait, je pense qu'il l'est encore, mais il n'est pas entendu par tout le monde. Je pense peut-être aussi que c'est un truc, j'allais dire générationnel, un truc d'âge, quoi. On est très sensible aux questions politiques et spirituelles quand on est des jeunes adultes ou des vieux ados. Et après, ça finit par s'estomper. C'est vrai qu'il y a le côté récréatif, mais c'est lié à plein de choses. C'est lié à plein de choses. Le cannabis, c'est pareil. Il peut y avoir le même débat dans le cannabis. Il y a des gens qui ont toujours consommé ça de manière récréative et d'autres qui ont une vision un petit peu plus... spirituelle, tu vois. Il n'y en a pas une qui vaut mieux que l'autre, dans l'idée. Mais c'est des utilisations qui sont quand même très différentes d'un seul et même produit ou phénomène, si on parle de sound system. Donc, c'est très compliqué. On se disait que bon bah voilà, en Jamaïque, les premières désillusions elles viennent directement de là-bas finalement, avec beaucoup de gens qui sont tombés dans les pièges de la drogue, même des superstars, qu'on nommera pas par respect. Et ce que je voulais dire par là, paradoxalement, à ce message qui a l'air un petit peu pessimiste, c'est quand même de se dire que si on regarde quand même les dernières générations d'artistes très talentueux, alors c'est pas forcément des Jamaïcains, quoique quand même la plupart. Allez, si on prend la dernière génération un petit peu blessed, on va dire, on a du Chronix, on a du Proto J, on a du Janine, c'est quand même des gens qui ont l'air foncièrement pieux, et je pense qu'ils le sont, peut-être que je me trompe, j'espère pas. Ces gens-là ont une influence qu'énormément n'ont pas, que ce soit chez les artistes et nous, les sound systems, et même producteurs. En fait, on est quand même, j'allais dire, l'arrière-garde. L'avant-garde sont les artistes, quoi qu'on dise. On est les porte-voix. Et ça nous va très bien. Je me dis que tant que l'avant-garde, justement, voilà, pour rester dans ce registre un peu militaire, se tient droit, le reste pourra suivre. Je m'arrêterai là-dessus.
Eh ben, bon concert, les amis.
Merci.
Guillaume, Mathieu.
Merci, salut.
Salut.
Pour l'interview. Merci beaucoup.
Salut, les gars.
Forward ever.
Backwards never. C'était Ismo pour RDWA. Salut à toutes et à tous. I and I want this, yes, yes, yes. Our elders have paved the way. They could jump and shout, hail King Rastafari. No matter what do we got say.
Shout, hail King Rastafari. and shout, hail and praise, Omega, defender of all faith.